cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. C'est le Polak qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout les Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les villages de betteraves.
Travailler le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM retrace aujourd'hui l'histoire des migrations successives des ouvriers agricoles qui vinrent travailler dans notre région entre 1910 et 1973. Les premiers étrangers qui vinrent en France pour faire les betteraves et la moisson sont les Belges à partir de 1860. Une enquête sur les salaires des étrangers réalisée en 1910 fait état de 8000 Belges présents dans l'Oise pour effectuer ces travaux. Leur réputation n'est plus à faire.
Quant aux Belges, ben c'est très vieux, effectivement. Oui. L'avant-guerre, ils étaient déjà là. Il y a une vieille tradition, si vous voulez, avec les Belges. Ce sont des spécialistes betteraviers, hein, depuis toujours.
On se souvient aussi qu'ils arrivaient, portant sur l'épaule un bissac bleu fait de toile, un matelas contenant leurs vêtements de travail et leur linge, ayant à la main leurs faucilles piquées dans un bouchon de liège et leurs binettes dans le sac. Les agriculteurs s'adressaient directement à des bureaux de placement, en contact eux-mêmes avec des chefs de bande, rassemblant des équipes. Les migrations belges diminueront fortement dès 1914.
C'est à partir de 1908 que les premiers Polonais seront recrutés, premier maillon des grandes migrations de l'Europe de l'Est, suivi par celles des pays du pourtour méditerranéen. Un ouvrier de Ré-Fosse-Martin se souvient des saisonniers qui venaient biner les betteraves en 1934 lorsqu'il a été embauché.
Cette année-là, il venait de Pologne. Mais bon, bah, avant la guerre, il y a eu des Yougoslaves, et particulièrement des Serbes, qui venaient aussi. Je me souviens, plusieurs années, il est venu des Yougoslaves. Et ça, c'était avant la guerre. Pendant la guerre, en 1939 et en 1940, il y a eu des Marocains qui sont venus, et des Belges.
Qui continuent à venir.
Comme saisonniers. Comme saisonniers pour faire les betteraves. Mmh. Bon, après, il y a eu les Italiens, tout de suite après la guerre. Il y a eu les Italiens, ensuite des Espagnols.
Les archives d'une ferme du Mulsien permettent de reconstituer les grandes étapes de ces migrations. En 37 ans, de 1924 à 1950, 127 permanents sont venus travailler. Certains y ont accompli toute leur vie de travail, d'autres se sont succédés. Parmi eux, 110 étaient polonais, soit 86,5%, pour 5 serbes, 10 belges et un tchèque. L'appel aux saisonniers d'origine étrangère est plus irrégulière. On en trouvera par exemple 16 en 1935 et 3 seulement en 1937. Parmi eux, le pourcentage de polonais était moindre, puisque 58% des campagnes de betteraves furent effectuées par des Polonais, 25% par des Serbes et le reste par des Belges. De 1954 à 1971, date à laquelle les travaux betteraviers sont presque totalement mécanisés, 26 Italiens effectueront 54 campagnes. L'un d'entre eux reviendra 16 fois de suite et 21 Espagnols pour 49 compagnes à partir de 1959. Dans d'autres exploitations, les Italiens ne reviennent plus après 1961. La majorité des travailleurs saisonniers a moins de 35 ans.
Ces chiffres, qui ne concernent qu'une seule exploitation du Mulsien, permettent cependant de parler, comme le fait un agriculteur de Nanteuil-le-Haudouin, de brassage de population.
Alors personnellement, je n'ai connu l'importation de main-d'œuvre étrangère saisonnière qu'avec les Polonais. Départ avec les Polonais. Dont une grande partie de ces gens-là sont venus se stabiliser en France. Et tout au moins, sinon eux, leurs enfants, leurs descendants. Vous voyez dans nos pays ruraux énormément de noms à consonance polonaise, alors qu'ils sont français. Ils sont français, il y en a même beaucoup parmi eux qui n'ont jamais parlé un mot de polonais. Et après les Polonais, nous avons eu les Italiens. Nous avons eu des Espagnols, puis dès que la guerre était finie, oui, mais tout ça, ça a amené un brassage énorme de population.
À partir de 1926 et jusqu'au milieu des années 40, la proportion des étrangers dans la population totale des communes a augmenté. Un exemple, il y avait 8 étrangers au recensement en 1926 à Cuvernion, 52 en 1931 et 73 en 1946, soit 27% de la population. Dans ce rappel des grandes étapes de l'introduction de main-d'œuvre étrangère en agriculture, il est important de nous arrêter quelques instants pour comprendre comment le début du XXe siècle marque la fin des allers-retours spontanés et libres des travailleurs originaires de pays frontaliers, comme la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, qui existèrent tout au long du siècle précédent. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, le pas est franchi. On s'oriente vers une immigration collective et organisée. Une réglementation particulière distingue désormais les salariés immigrés des autres étrangers. C'est le statut de travailleur étranger qui s'élabore au fil des ans.
Dès 1919, une convention franco-polonaise est signée pour le recrutement de mineurs, de fonds et d'ouvriers agricoles, dont l'application sera orchestrée par l'Office polonais d'immigration et en France pour l'agriculture, par le MOA, Service de la main-d'œuvre agricole, dépendant du ministère de l'Agriculture. Rapidement, sous l'impulsion du Comité central des houlières et de la Confédération générale des associations agricoles des régions dévastées, le CARD, l'émigration collective s'organise. En 1924, ces deux organisations patronales créent un organisme unique, la Société générale d'immigration, la SGI, qui se voit confier le recrutement, le transport et la répartition de la main-d'œuvre étrangère, moyennant une redevance payée par l'employeur. En Pologne, deux centres de rassemblement de la main-d'œuvre polonaise fonctionnent, à Poznan, puis à Mistowicz, dans le sud. Les candidats à l'immigration, installés dans des conditions désastreuses, sont triés selon leur aptitude professionnelle et vaccinés contre le typhus et la variole, en attendant le convoi qui les amènera en France.
En France, un centre est installé pour le Nord, au nœud ferroviaire de Toul, où l'on contrôle leur contrat d'embauche. Après quoi, ils reçoivent une carte de travail verte pour l'industrie et chamois pour l'agriculture. Ils sont ensuite dispatchés vers les lieux de travail. À l'arrivée, leur employeur doit les inscrire sur un registre des travailleurs étrangers contrôlé régulièrement par la gendarmerie. La convention prévoit qu'ils doivent avoir des salaires égaux à ceux des Français, que l'employeur paie leur voyage et qu'ils bénéficient des assurances prévues en cas d'accident. Rien n'est prévu pour les membres de leur famille qui voudraient les rejoindre.
Cette simple énumération nous donne le sens de l'évolution. Plus de départs sans contrat d'embauche, obligation de rester pendant la durée du contrat chez l'employeur qui a payé leur voyage et les frais d'introduction, contrôle d'identité, limitation du secteur d'activité. Le fils d'un Polonais se souvient.
Après les guerres 14-18, la France manquait beaucoup de main-d'œuvre. Et c'était le gros afflux d'ouvriers polonais. C'est les Polonais qui, eux, venaient travailler dans les fermes.
Oui.
Par le fait, ils n'avaient même pas le droit d'aller travailler dans une usine.
Non.
Ça leur était interdit, ils étaient venus uniquement. C'était un contrat de travail. Ils étaient venus, mes parents sont venus en France. En France, c'était en 21. Mais mon père, il était berger et il n'avait pas le droit d'aller travailler en usine.
Une carte de travail unique sera mise en service plus tard, mais elle portera toujours mention du secteur d'activité. Et en 1935, elle ne sera valide que pour le département du lieu de travail. Des conventions identiques seront signées avec l'Italie, la Belgique et avec la Tchécoslovaquie. Peu à peu, la nécessité de faire venir les immigrants collectivement sera de moins en moins utile, puisqu'une fois implantés et acceptés, les premiers Polonais, en accord avec leurs employeurs, pourront faire venir d'autres membres de leur famille ou personnes de leur commune.
Il y avait pas mal de familles polonaises, hein. De la moitié. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vois mon père, il est arrivé en 25, je crois. Eh bien, il y avait quelqu'un déjà qui, de la famille, enfin, de la famille éloignée qui était là. Et qui a fait venir mon père, qui a demandé au patron s'il pouvait pas établir un contrat pour quelqu'un de la famille. Et puis, bon, bien sûr, ça fait un contrat. Mon père, il est venu. Il est venu seul. Et 2 ans après, nous, on est venu avec ma mère quand il a gagné assez d'argent pour payer le voyage à ma mère. Par exemple, mon père, après, il a fait venir son beau-frère. Et puis, ainsi de suite.
Vers 1930, une jeune Polonaise arrive en France sur une demande de son frère. Elle nous dit pourquoi faire. Son mari étant ouvrier agricole à Mets-en-Mulsien, elle passera de l'usine au travail des champs.
En France, j'avais envie de venir parce que j'avais mon frère qui était en France, qui est venu en 1922, quelque chose comme ça. Et puis après, mon frère, il est venu à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Alors, puis dans cette usine, alors, il y avait le directeur qui avait besoin de beaucoup d'ouvriers. Alors, il ne trouvait pas assez ici.
C'était une usine de quoi?
La soie.
De la soie?
De la soie artificielle.
Ah oui, d'accord.
Oui. Alors, puis le directeur, il demandait à ces ouvriers, les étrangers, s'ils n'ont pas quelqu'un en Pologne qui voudrait venir. Alors, bon, mon frère, il nous a écrit si je voudrais venir, tout ça. Moi, je n'ai pas dit non. Alors, il nous a envoyé les papiers, tout ça, puis on est revenu en 1930. Puis j'ai resté 4 ans là-bas, que je travaillais. Après, j'ai fait connaissance à mon mari.
Le système mis en place en 1919 et heureusement améliorée, fonctionnera sur les mêmes principes pour tous les immigrants après 1945, comme nous le rappelle le directeur du syndicat des planteurs de l'Oise, chargé de l'introduction des saisonniers en liaison avec les services officiels de la main-d'œuvre et de l'immigration.
La direction du travail et de la main-d'œuvre, oui, qui existait à l'époque déjà, oui, réceptionnait tous les contrats. Et ces contrats étaient envoyés donc à l'office d'immigration dans ses bureaux correspondant au pays demandé, c'est-à-dire Irul par conséquent, et puis Milan de l'autre côté. Alors donc, les bureaux locaux d'Irul convoquaient les gens, vous voyez, en fonction des contrats en question. Réclamait pour le 10 mai ces types, bon, ben on convoquait, Irul convoquait les gars, ils passaient par Irul, hein, on les authentifiait,
Visite médicale.
Visite médicale, oui. Et ils étaient dirigés ensuite vers le cultivateur, et idem pour les Italiens, et ça. Puis les Portugais par la suite.
Pour bien comprendre ce qu'ont vécu les immigrés de notre région, il faut aussi parler du voyage et de leur sentiment de détresse à l'arrivée. Le voyage des premiers Polonais des années 20 fut terrible par leur durée et l'entassement des gens dans les compartiments ou les bateaux, car certains d'entre eux, qui n'avaient jamais vu la mer, vinrent aussi en bateau. L'un d'eux raconte son arrivée à Dunkerque, où une autre humiliation l'attendait.
Le 5 juillet 1923, nous débarquions à Dunkerque. Les dirigeants de notre groupe réglèrent la question des papiers. Puis ils préparèrent des cartons avec l'adresse du lieu où l'on devait se rendre et ils les attachèrent sur le revers de nos vestes. Cela avait l'air très bête et les Français nous regardaient comme un troupeau de moutons. La moitié d'entre nous, les moins peureux, nous étions 1200 à arracher ces cartes. La nuit suivante, nous avons pris le train en France, serrés les uns contre les autres, comme des harengs dans un tonneau. Il faisait très chaud, on avait soif et pas un sou.
Mais en 1960, des Espagnols ont aussi de très mauvais souvenirs. Ils racontent.
La salida masiva para la temporada de remolacha o para las vendimias tuvieron consecuencias en las condiciones de transporte, pues los vagones iban abarrotados, los asientos previstos para 8 ocupados por 10 o 12 personas.
Des wagons bourrés, des banquettes prévues pour 8, occupées par 10 ou 12 personnes. À la fatigue du voyage s'ajoutait l'épuisement des cavalcades de gare en gare, alors qu'on est chargé de nourriture, de linge.
El agotamiento de las prisas en las estaciones, cargados con las maletas, maletas repletas de comida, de ropa, esas maletas frecuentemente reforzadas con cuerdas.
Ces valises renforcées de cordes pouvaient peser 30 kilos.
Pesos a veces de 30 kilos, los sacos, las botas de vino. En los años en que venía muchos remolacheros.
Dans les années de grande affluence des betteraviers, où plusieurs milliers d'immigrants se retrouvaient concentrés à la gare du Nord, attendant le train indiqué sur leur feuille de route, la police française forçait ceux-ci contre leur gré à prendre le premier train en partance pour leur direction, sans s'occuper de savoir s'ils allaient se perdre ou ne pas trouver l'employeur qui les attendait.
À dónde iban o si iban a encontrar al patrón que les esperaba.
Puis ils arrivaient quand même. Avant la guerre, les employeurs de la région de B allaient chercher leurs ouvriers à la gare avec un cheval ou une voiture à la gare de B. Il y avait beaucoup d'activités à la gare de B. Il y avait un train le matin et un train le soir. Pour beaucoup, l'arrivée dans un monde inconnu suscitait une grande détresse. Écoutons.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ennuyée à mourir.
Oh là là, tellement je me suis ennuyée, parce que vous savez, quand vous ne savez pas parler ni rien du tout, oui, mais les Français, ils nous parlaient et tout, alors on croyait toujours qu'ils disent du mal de nous. Et puis je dis, comme ça, je vais travailler, je vais gagner juste pour payer mon train, puis je tourne à mon pays. Thank you.
C'était « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien. Aujourd'hui, l'histoire des migrations successives des ouvriers agricoles. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.